France Musique. Musicopolis. Hollywood, l'âge d'or de la musique de film. Chapitre 4. Ici, on vend du rêve. Dans le troisième chapitre, j'ai fait un gros plan sur trois compositeurs venus d'Europe. Max Steiner, Eric Korngold et Franz Waxman. Les trois sont véritablement à l'origine de la musique de film telle qu'elle est conçue durant cet âge d'or de Hollywood dans les années 30 et 40. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Et j'aurais pu citer aussi Dimitri Tiomkin, venu d'Ukraine, passé par le conservatoire de Saint-Pétersbourg, Bronislaw Kapper, venu de Pologne, passé par le conservatoire de Varsovie, ou encore Miklós Rozsa, venu de Hongrie, passé par le conservatoire de Leipzig. Ceux-là sont tout aussi valeureux et ils ont eux aussi largement contribué à la concrétisation sonore du style Hollywood. Nous allons essayer dans ce quatrième épisode de rentrer plus avant dans la tête de celui qui compose une musique de film pour tenter de comprendre comment ça se passe. Mais d'abord, je voudrais citer ce mot de Dimitri Tiomkin lorsqu'il reçoit l'Oscar de la meilleure musique pour le film The High and the Mighty. Voulant remercier tous les compositeurs du passé qui l'ont inspiré, il commence très sérieusement. Merci à Beethoven, Brahms, Wagner, Strauss, Rimsky-Korsakov. Et il ne peut rien ajouter parce que la salle, croyant qu'il fait de l'humour, hurle de rire, ce qu'il n'avait pas du tout prévu. Mais revenons à nos moutons. Voilà de quoi vous mettre dans l'ambiance, puisque dans un film, la fanfare du studio est la première musique qu'on entend. J'ai choisi pour commencer celle des studios Warner, mais j'aurais pu en choisir une autre. Elles ont plusieurs points communs, elles sont courtes et bien marquées, on doit pouvoir les identifier facilement. Elles ont parfois un petit truc en plus, comme celle de la Metro Goldwyn-Mayer avec son rugissement. Et bien sûr, l'aspect fanfare, avec ses cuivres, doit être joyeux comme un défilé de fête nationale. Et pour couronner le tout, la mélodie doit être ascendante pour susciter l'optimisme et la réaction positive du public. On dit même que certains studios exigeaient que la musique du générique soit écrite en majeur. La musique de concert est pleine de secrets, dit Franz Waxman. Il poursuit, Brahms par exemple se révèle dans la durée et la signification de sa musique vient lentement lorsqu'on l'étudie. La musique de film, elle, doit faire mouche tout de suite parce qu'elle sera entendue seulement une fois par un public qui n'est pas préparé et qui en plus n'est pas venu là pour écouter de la musique. Je crois en des thèmes forts, bien reconnaissables et qui peuvent être répétés et variés selon les besoins du film. La musique de générique d'un film, en anglais le « main title », est un moment important. C'est le sas par lequel le public va passer de la vie de tous les jours, avec ses préoccupations quotidiennes, au rêve, à un spectacle d'une vie qu'il ne connaît pas encore, mais où tout est possible. Exactement comme une ouverture d'opéra, le générique doit mettre le spectateur dans l'ambiance, généralement en lui présentant quelques thèmes qu'il entendra durant le film. Suivant les variations qu'ils vont subir, ces thèmes nous donneront quelques clés de compréhension. Dans « Soupçon » de Hitchcock, dont on entendait à l'instant le générique, le thème de Max Steiner, assez romantique, est alourdi et presque contrarié par une note martelée à la timbale, les soupçons. Le thème reviendra à la toute fin du film dans une orchestration différente. Et sans vouloir spoiler, je suis sûre que vous comprendrez en l'écoutant si le film finit bien ou mal. Les cloches discrètes qui accompagnent le thème pour les dernières images du film vous auront permis de comprendre ce qu'il en est vraiment des intentions des personnages de soupçon de Hitchcock. Je reviens au générique, le main title. Il y a d'autres manières de le concevoir. Si vous écoutez à présent le générique de Meet John Doe, film de Frank Capra avec Gary Cooper et Barbara Stanwyck de 1941, en français L'homme de la rue, musique de Dimitri Tiomkin, en 1 minute 15, vous avez une série de thèmes différents, dans un montage rapide, un genre de pot-pourri qui présente en même temps que les images l'environnement, l'arrière-plan social et politique de l'époque où se tient le film, les années 20, aux États-Unis, avec des gens ordinaires. On voit d'abord des foules de travailleurs, des hommes qui pointent à l'usine. D'autres qui s'aiment. Des mineurs. Des ouvrières qui cousent, des téléphonistes. Ici, les noms de Gary Cooper et Barbara Stanwyck. Une fête foraine à la plage avec le titre du film. Le reste du générique sur l'image d'une foule compacte sur une place. Des gens qui marchent dans une fête. Un camp de vacances. Des soldats qui défilent. Une foule d'enfants qui jouent. Et au moment où apparaît le nom du réalisateur, Frank Capra, une maternité avec des petits berceaux alignés. Voici résumé en images la vie de l'homme de la rue, cet homme ordinaire qui sera personnifié par Gary Cooper pendant le film avec toutes les musiques qui l'accompagnent, y compris celle de la romance qui va advenir entre lui et Barbara Stanwyck, qui nous a été signalée musicalement dès la 15e seconde du film. Mais revenons un peu au rôle de la musique dans un film et par conséquent au rôle du compositeur. Que doit faire la musique ? Soutenir les images, en dire plus, les souligner au risque de redonder, donner un sous-texte, nous faire pénétrer dans les pensées des personnages, évoquer quelque chose qui serait hors champ, révéler des sentiments ou des impressions ? Un peu de tout cela, bien sûr. Alors voyons y voir d'un peu plus près. Non, bien sûr, ce n'est pas là une musique de l'âge d'or de Hollywood, c'est une musique d'opéra baroque, Alcyone de Marin Marais, 1706. Et je suis sûre que vous vous doutez que ce n'est pas une scène d'amour, ni une scène de sommeil, ni une prière, ni l'entrée du roi, ni l'entrée du traître. C'est qu'il y a des conventions dans la musique, je pourrais dire des clichés, et n'y voyez rien de péjoratif. Et on sait bien que certains types de musique correspondent à des situations ou à des sentiments particuliers. Ici, une tempête. Le cliché de la tempête, c'est d'abord un tempo rapide, des gammes très rapides, beaucoup de notes répétées et des percussions. Exactement comme dans l'opéra baroque, il y a dans la musique des films de Hollywood des éléments techniques qui nous permettent de nous faire une idée de la situation présentée à l'écran. Devinez donc ce qui se passe ici. Vous allez entendre un tempo très rapide, quelque chose d'un peu angoissant qui s'intensifie parce que les motifs sont répétés de plus en plus aigus, des sonorités grinçantes de cuivre bouché. Et puis soudain, un moment d'arrêt qui va être suivi d'un épisode encore plus agité, coupé d'accords cinglants. Bon, la musique continue avec d'autres épisodes un peu différents. Je pense que vous avez eu le temps de vous faire une idée de ce qui se passe à l'écran. D'autant plus qu'il y a le bruit des épées. La devinette était facile. Nous sommes dans le duel entre Henry Daniel, le méchant Lord Wolfingham, et Errol Flynn, le bon Geoffrey Thorpe, dans The Seahawk, l'aigle des mers de Michael Curtis, musique de Korngold. Oui, vous avez bien compris, Errol Flynn a transpercé le méchant qui est mort. Et il n'y aura pas d'oraison funèbre puisque des soldats arrivent pour s'attaquer au pauvre Errol qui n'aura pas non plus le temps de reprendre son souffle.
Stop it! Stop it, I tell you!
Oui, arrêtons puisque la reine d'Angleterre l'ordonne. Je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire avec ma comparaison entre l'opéra baroque et le film hollywoodien. Les éléments musicaux employés par le compositeur sont immédiatement compris par le spectateur. Il n'y a là rien d'intellectuel, tout passe par l'émotion. Comme le dit Max Steiner, dans un film, la musique devrait être ressentie et pas entendue. Et à présent, voyons un peu comment s'y prennent les compositeurs lorsqu'on leur demande une musique de film. Sachant que bien sûr, la musique ne pourra être composée de manière définitive qu'une fois le film entièrement tourné et monté. Puisqu'en effet, il doit y avoir une simultanéité parfaite entre ce qu'on voit et ce qu'on entend.
Can I have a word with you, sir?
Lorsqu'un compositeur est engagé pour écrire une musique de film, pendant cet âge d'or de Hollywood dont il est question dans notre série, il peut parfois avoir la possibilité de commencer à réfléchir dès qu'il a connaissance du script. Korngold, qui a des conditions de travail spéciales, très avantageuses, avec peu de films à faire chaque année, peut commencer à esquisser des thèmes très tôt. Mais c'est assez rare, en raison des délais très contraints et du fait que le compositeur est le plus souvent en train de terminer un ou plusieurs autres films dans la précipitation. Les studios donnent des dates de sortie longtemps à l'avance, bien avant que le film soit fini, et si la production prend du retard, le temps alloué à la composition de la musique se raccourcit d'autant. Que le montage est terminé, le compositeur va pouvoir se mettre au travail. Il va d'abord regarder le film, plusieurs fois, bien s'imprégner des images, se demander quand placer la musique, à quel moment elle commencera, à quel moment elle se finira, et si elle interviendra pendant les dialogues ou non. Quant à la mesure du temps, chacun a sa propre manière de l'évaluer. On dit que Korngold n'avait aucune aptitude pour tout ce qui était mécanique. Même un chronomètre l'effrayait. La première fois qu'il a visité les studios des frères Warner, pour le film « Le songe d'une nuit d'été », il a demandé « Quelle est la longueur d'un pied de pellicule ?» On lui répond « 12 pouces ». Non, ce que je demandais, c'est la longueur en temps. On appelle un technicien qui explique qu'il y a 24 images par seconde et il y en a 16 dans un pied, donc un pied dure environ 2/3 de seconde. Ah, s'écrie Korngold, exactement comme les deux premières mesures du scherzo de Mendelssohn. Korngold ne se servira jamais d'autre chose que de son intuition incroyable du tempo et de la durée pour écrire ses musiques de film. Si une séquence d'images requiert un épisode musical de 42 secondes et 2/3, il écrira une séquence de musique qu'il dirigera en exactement 42 secondes et 2/3. En revanche, Max Steiner, lui, va introduire une autre manière de faire. Une fois qu'il a bien regardé le film, mais pas plus de 2 ou 3 fois, avec l'aide d'un assistant, il établit un relevé des timings très précis, scène par scène, ou même par morceau de scène. Des marques sonores, des clics, seront réalisés sur la pellicule, qui correspondront exactement au tempo de la musique et qu'il entendra dans ses écouteurs pendant les séances d'enregistrement. En attendant, Steiner se lance dans la composition, d'abord sans tenir compte du timing, en imaginant des thèmes pour les différents personnages, ou pour une scène ou une autre. Il place parfois de la musique pour donner du rythme à une scène qu'il trouve trop lente, ou l'inverse, ou encore pour clarifier les émotions d'un personnage. Par exemple, pour montrer la souffrance profonde du major Geoffrey Vickers, à l'écran Errol Flynn, dans la charge de la brigade légère, lorsqu'il prend la décision d'envoyer 600 hommes à la mort. Il réfléchit intensément. Il se dirige vers son bureau. Il regarde la carte. Il lit l'ordre qu'on lui a donné et qu'il ne veut pas suivre. Il voit des images de massacres de civils britanniques. La veine de son front est toute gonflée. Sa décision est prise, il écrit l'ordre de départ de la brigade légère. Dans les films muets, la musique était un flot continu qui devait compenser le silence de l'écran et soutenir la narration. Dans les films sonores, la fonction de la musique est plus subtile. Elle peut certes être omniprésente, mais elle peut aussi être placée à des moments stratégiques, notamment pour assurer la transition entre les scènes ou entre les grandes parties. Le cinéma étant discontinu, avec beaucoup d'ellipses de temps et de changements de lieu, la musique permet de compenser les coupes entre les scènes ou entre les plans différents et de ressentir une continuité dans la narration. Par exemple, écoutez cette scène du film Captain Blood de Michael Curtis, musique de Eric Wolfgang Korngold. Le docteur Peter Blood, Errol Flynn, qui a soigné un rebelle, a été condamné par le roi James à être vendu comme esclave dans les colonies. Nous allons donc passer de l'Angleterre du roi James à Port-Royal, en Jamaïque. D'abord, les images montrent un navire avec un texte déroulant qui explique la destination. On entend le thème de Peter Blood. Un prisonnier réclame de l'eau, on entend toujours le thème de Blood. Nouveau thème est vu sur la cale où Blood est en train de soigner des prisonniers mal en point.
think they'd take better care of a valuable cargo like us.
Vous pensez qu'ils vont prendre soin d'une cargaison comme la nôtre? Retour du thème de Blood, vu sur les voiles du bateau.
Ahoy the deck! They've sighted Port Royal!
J'ai vu Port Royal! Au thème de Blood se mélange le thème exotique de Port Royal.
It's a truly royal clemency we're granted, my friends.
Discours de Blood sur l'injustice royale, toujours dans la cale, par-dessus son thème.
He spares us the mercifully quick extinction of the hangman's rope. And gives us the slow death of slavery. He grants us our lives in exchange for a living death. Faith, it's an uncertain world entirely.
Changement d'ambiance musicale, nous voici arrivés à quai. Les prisonniers descendent du bateau sur le port, accompagnés par le thème de Port Royal, dont on avait entendu les prémices quelques instants plus tôt. Et c'est donc grâce au thème de Peter Blood, avec sa longue mélodie, que nous avons pu faire en 1 minute 30 le voyage de l'Angleterre jusqu'aux Caraïbes. Korngold, le compositeur de Captain Blood, compose au piano. Ou plutôt, il improvise au piano des heures durant en regardant les séquences du film dans une salle de projection. Il écoute aussi dans quel registre parlent les acteurs, plus aigus ou plus graves, pour ne pas risquer de couvrir leur voix par la musique. Il compose sa partition autour de leitmotifs, comme on en trouve dans les opéras de Wagner, des motifs musicaux associés à un personnage ou à un lieu et qui reviennent régulièrement dans le film, variés selon les situations. Le principe des leitmotifs dans la musique de film date des débuts du parlant et dès King Kong en 1933, Max Steiner en avait fait bon usage, notamment pour le monstre, dont on entendait le motif musical en trois notes descendantes sinistres dès le début du générique. Les leitmotivs sont introduits parfois franchement, comme dans King Kong, parfois de manière subliminale. Rappelez-vous, dans le premier chapitre de cette série, nous avons commencé avec la scène d'amour dans Les aventures de Robin des Bois, musique de Korngold. La scène était accompagnée d'un thème tout à fait romantique, avec une bouffée ascendante qui correspondait au moment où Robin surgissait dans la chambre de Marianne. En fait, le thème avait déjà été entendu lors d'une précédente rencontre entre les protagonistes, mais de manière subliminal. C'est qu'en effet, le spectateur n'écoute pas la musique, pris qu'il est par les images et les dialogues. Il n'écoute pas, mais il entend. Et la musique s'imprime, en quelque sorte, à son insu. Robin vient de faire visiter la forêt de Sherwood à Marianne, qui a pu constater la misère des Saxons maltraités par le roi Jean. Robin et Marianne sortent à présent de la forêt. Écoutez bien le thème derrière le dialogue.
I'm sorry to have to show you that. But once these poor people were all happy and contented. Just simple villagers who never harmed a soul. And now, tortured, eyes put out, tongue slit, ears hacked off. They come to me for protection against your Norman friends.
But you've taken Norman lives.
Yes, those that deserved it. Cruel and unjust.
You're a strange man.
Grâce à cette musique un peu cachée sous les dialogues, nous serons prêts à comprendre à qui pense Marianne la prochaine fois que nous entendrons ce thème, lorsque la jeune femme demande à sa duègne comment on se sent lorsqu'on est amoureux. Le thème de la scène d'amour des aventures de Robin des Bois, musique de Eric Wolfgang Korngold, réenregistré par l'Orchestre symphonique de l'Utah, dirigé par Varujan Kojian. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission et de toute la série sont bien sûr sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Dans le cinquième et dernier épisode de cette série, nous verrons, une fois la musique composée, tout le travail qui reste à faire, l'orchestration, les répétitions et l'enregistrement. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Léa Gramusset pour les recherches et le site, Lucas Derode pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.